J'ai voulu qu'on parle quand même un peu, au moins un peu, du rapport de, non pas tellement de Jean-Luc Marion et du sport, mais enfin de sa pensée et du sport. Parce que quand on connaît Jean-Luc Marion dans l'intimité, on sait qu'il aime beaucoup les bandes dessinées, qu'il est un grand spécialiste de Tintin, mais pas que. Il pourrait faire aussi de Thierry de Royaumont comme système. Donc il y a d'autres figures importantes. Et puis une connaissance, enfin une érudition. Alors bon, sur les voitures, sur les différents vins, ça c'est sûr aussi. Sur les tabacs, sur les alcools. Mais une érudition absolument stupéfiante dans le domaine du sport. Bon, pas tous les sports, on a vu qu'il avait quelques failles lorsque nous abordions la question du curling hier. Mais que ce soit l'athlétisme, le football, quoi d'autre, le cyclisme, bien sûr, le Tour de France. La première fois que je suis allé dans sa maison sa résidence en fait principale à Lau, puisque dans son pays natal, il m'a proposé avant que j'aille faire la sieste un livre du Tour de France de 1954. C'est-à-dire que le Tour de France, c'est pas simplement celui de maintenant, mais c'est le Tour de France depuis, quand ça commence. Donc le football, bien sûr, le tennis. Hier, on a eu des grandes discussions sur le tennis. Donc la question, c'est d'abord vous avez pratiqué un sport particulier, qui est la course. Que vous dites par excellence, même si ce serait une demi-course, enfin le mot demi apparaît, c'est la course de demi-fond.
Demi-fond.
Alors qu'est-ce que c'est déjà la course de demi-fond et pourquoi ce serait la course par excellence ?
Le demi-fond, c'est. Tout ceci varie, mais enfin, le demi-fond traditionnellement, c'est du 800 au 5000.
Du 800
mètres
au 5000 mètres.
Au 5000 mètres. C'est-à-dire de 2 tours de piste à 12 tours de piste, un truc comme ça. Et alors, pourquoi est-ce que c'est admirable ? Parce que il faut, au 800 mètres, c'est maintenant quasiment une courbe de vitesse, donc il faut quand même une grosse vitesse de base. Quand on voit ce qu'ils font sur 5000 mètres maintenant, ils tournent à 55 au tour, c'est un truc de fou, quoi, je veux dire. Et ils terminent le dernier tour dans un temps de 400 mètres, quoi, c'est fantastique. Donc, il faut une grosse vitesse de base, il faut de la résistance, parce qu'il faut. Et puis, il y a toute une dimension tactique et très réfléchie. C'est moins le cas dans des distances plus courtes. Et même dans les distances plus longues, la dimension tactique, quand est-ce qu'on doit mener, pas mener, quand est-ce qu'on doit faire l'effort, comment se placer dans le peloton, etc., est moins importante. Donc et puis il y a eu de très grands coureurs, il y a toujours de très grands coureurs comme ça. Moi, je suis plus impressionné par ça que par le sprint, par exemple, qui a sa grandeur, évidemment. Et les courses de fond, bon, enfin voilà. Je trouve ça admirable.
Alors pourquoi ?
Moi, j'ai pratiqué ça à un niveau qui me permet toujours. Au moment où j'avais commencé à faire des études sérieuses, je suis allé voir mon entraîneur au Stade Français. Le Stade Français était très bien à l'époque, et bon, c'est encore mieux, mais ils avaient surtout un entraîneur atroce et qui nous menait à la trique, mais qui avait fait des équipes de jeunes, des très bonnes équipes de demi-fond. Alors je suis allé voir en me disant, écoutez, est-ce que je prépare l'école normale, supérieure, ou est-ce que j'investis dans le sport ? Il m'a dit, tu es bon, mais pas très. Alors c'est-à-dire que bon, tu pourras faire une finale des championnats de France. Dans un bon jour, avec un miracle, tu seras sur le podium, mais pas plus. Donc j'ai dit, bon, je fais l'école normale. Enfin, j'essaie. Donc, mais j'ai continué après. Et j'ai continué jusqu'à ce que les ennuis cardiaques me rendent impotent et grabataire. Mais je faisais encore les Paris-Versailles et les 20 km de Paris quand j'étais professeur à la Sorbonne, ce qui faisait que j'étais sûrement l'un des meilleurs coureur à pied parmi les profs à la Sorbonne. Donc, et ça me manque beaucoup. Parce que le sport, la compétition, bien sûr. Alors la compétition, la dimension spirituelle de la compétition est évidente. Enfin, ça c'est d'ailleurs pourquoi la course à pied est décrite et utilisée dans les Écritures. Il y a un très beau 1500 mètres entre Saint-Pierre et Saint-Jean quand il court vers le tombeau. Ah oui. Et avec la dimension tactique.
Saint-Jean... Juste dans ma... Oui. La première à courir, c'est Marie-Madeleine. D'abord, elle court vers eux et après, eux partent. C'est une course de relais.
De relais mixte.
C'est une course de relais mixte. Une course de relais mixte. Épreuve à inventer.
Donc, je veux dire,
dans un sens et dans l'autre.
Donc, pour venir à... Bon, mais pourquoi est-ce que les gens font du sport? Pourquoi est-ce que la pratique du sport se développe? Il y a deux réponses, ou plutôt la même réponse en deux. La première, c'est que quand est-ce que je peux faire l'expérience de ma chair? C'est-à-dire, dans la vie normale, je ne fais pas l'expérience de ma chair. Quand tout fonctionne bien, je manie des objets, je ne m'aperçois même pas que je les sens, c'est automatique. Alors, je ne fais l'expérience de ma chair que involontairement dans la souffrance physique. Quand je suis malade, je fais l'expérience de ma chair, mais je m'en dispense à bien. Et de manière relativement exceptionnelle, dans le phénomène érotique. Bon, moi, je passe pas mon temps à faire ça tout le temps, en principe. Donc, même s'il y a des périodes de suractivité, le reste, normalement, c'est pas... Or, il y a une dernière occasion de faire volontairement l'expérience de la chair. C'est de faire du sport, de l'entraînement, et de se faire mal, comme on dit. Hein? Vraiment, pour s'entraîner tous les jours, il faut pas s'aimer. Comme on dit, bon. Et l'entraînement, on se fait mal. Et se faire mal, c'est éprouver sa chair. Alors la différence entre avoir mal ou jouir, c'est que avoir mal, c'est involontaire. Jouir, c'est pas le faire tout seul, en principe, du moins. Et tandis que là, j'éprouve ma chair volontairement. C'est la chair volontaire. C'est le seul cas. Et au contraire du plaisir solitaire, qui n'est pas un vrai plaisir, quand j'éprouve ma chair volontairement, j'y éprouve vraiment. Donc, l'entraînement, la souffrance indispensable pour faire du sport, c'est pas la vraie souffrance, c'est l'éprouver sa chair. Donc, pour ça, pourquoi est-ce que les gens aiment se faire mal? Parce que, comme l'a dit très bien Michel Henry, la jouissance et la douleur sont le même. En fait, quand je me fais mal, je sens ma chair. Et je la sens parce que je la mets à l'épreuve, je la sollicite, je l'excite. Et ceci me fait bien plaisir, pas seulement quand ça s'arrête. Donc, en fait, quand vous faites un effort sportif, que vous vous donnez à tout, à fond, vous avez à la fois de la jouissance et de la peine, et de la souffrance, c'est-à-dire que vous éprouvez votre chair. Donc, je comprends que dans un monde où nous avons de moins en moins l'occasion d'éprouver notre chair, les gens fassent de plus en plus de sport. Ils ne font pas du sport pour se distraire, ils ne font pas du sport pour leur santé. Ils font du sport pour une raison beaucoup plus profonde, ils veulent éprouver leur chair.
Mais pourquoi est-ce que parce qu'il y a un autre cas assez évident, qui est vous l'avez écarté d'emblée, le maniement. Bon, mais,
le travail.
Mais voilà, le travail manuel.
Oui, mais,
et
mais,
puis la pratique des arts, notamment quand on pratique un instrument de musique, mais, il y a une manière d'éprouver sa chair en tant que...
Bien sûr, mais enfin, tout le monde, me lit top, ne pratique pas un instrument de musique ou d'autres formes d'art qui ont une dimension physique comme la danse, etc. Et puis, le passage à l'ère numérique, qui vous est si cher, fait que le travail n'est plus physique. Sinon le mal de dos et le mal de la vue à cause des écrans. Mais je veux dire, nous n'avons plus d'exercice de la chair dans le labeur, ou de moins en moins. Et donc d'où une perte d'identité, d'expérience de soi. Donc le sport devient presque indispensable pour garder un certain rapport à soi.
Oui, mais dans une société qui est une société justement de la dissociation, oui, du fait de la perte du travail physique. C'est-à-dire que les gens prennent des ascenseurs et puis vont faire du simulateur d'escalier dans un centre de fitness.
Oui, c'est ça.
Les gens ne travaillent plus avec leur corps, sont derrière un bureau et après ils vont faire des mouvements dans le vide avec de la fonte. Alors, si on avait une société, par exemple, si le travail humain était considéré toujours comme un travail physique, et pas simplement un travail intellectuel, parce que le vrai problème c'est l'invention du travail intellectuel pur, le sport, bon, serait un truc d'aristocrate anglais, quoi. Mais enfin voilà, est-ce que les paysans faisaient du sport?
Ben non, ils faisaient pas de sport. Mais donc là, actuellement il faut comprendre cette fonction du sport. Alors je pense que ceci est un peu détruit, encore une fois, par les centres de sport urbains, et que le sport, hein, c'est, donc la course à pied, c'est mieux si vous êtes au Bois de Boulogne que si vous êtes dans un
tapis roulant.
Un tapis roulant. Et la montagne, c'est mieux. Le ski, c'est mieux. Faire un vrai sport, pas un sport décomposé et sous vide.
Fitness,
quoi. Ça, c'est la chose la plus atroce qui est possible. Mais enfin, il y a cette première fonction. Deuxièmement, il est bien clair que le sport a aussi pour but l'ascèse. Alors, c'est une ascèse qui, la plupart du temps, est déconnectée de toute ambition spirituelle, mais il y a un besoin ascétique qui est maintenant tenu par le sport. On a besoin de se punir. On a besoin de se prouver qu'on peut se détacher de certaines choses. Et le sport remplit cette chose. Alors ça, ce sont la description extérieure. Et il y a une chose plus intéressante dans le sport qui est liée à la compétition. Alors moi, je parle du sport réel. Je ne parle pas du sport spectacle, qui est un problème dérivé. Le sport réel, quand vous êtes en compétition avec un type, vous courez, puis il y a des deux va gagner et l'autre pas. Ou même, il y en a un qui arrivera 35e et l'autre 36e de son cross. Bon, vous êtes... vous êtes au milieu de la course, qui peut faire 10 km, 15 km ou 1000 mètres. Bon. Normalement, au milieu de la course, vous êtes déjà mort. Vous n'en pouvez plus. Et vous savez que c'est maintenant qu'il va falloir remettre un coup parce que ça va accélérer. Donc, il y a un gars, que c'est vous, qui est dans la même disposition. Ce type, vous le connaissez très peu. Il va vous faire mal. Et votre espoir, c'est de lui faire mal aussi. Il va démarrer. Vous allez cracher vos poumons et vous allez revenir sur lui. Et si vous serez à sa hauteur, vous le regarderez et vous en mettrez un coup. Et naturellement, vous n'avez pas les moyens d'accélérer, mais vous allez le faire quand même. Lui, il n'a pas les moyens de répondre, mais il va le faire quand même. Et si c'est un cross, vous allez faire ça deux ou trois fois par kilomètre. Donc pendant un quart d'heure, vous allez vraiment vous cogner dessus, mais atroce. Et ce type ne vous a rien fait. Vous allez lui en faire baver énormément et il ne va pas se gêner pour faire la même chose. Bon. Tout ça pour être 35e ou 36e d'un cross de toute façon dont tout le monde se fout complètement.
Mais juste une remarque d'ailleurs, le terme du libéralisme par excellence, c'est la concurrence. Et c'est le fait de courir ensemble. Enfin, c'est, le mot veut dire qu'on court ensemble. Donc c'est ça, ce que tu décris là.
Et alors, ça va se terminer, l'un des deux va battre l'autre. Alors là, il se passe une chose tout à fait, plusieurs choses étonnantes. Premièrement, le premier réflexe, c'est de tomber dans les bras du gars à côté, que vous ne connaissez pas. Mais tous les deux, vous y êtes allés à fond, vous êtes complètement morts. Finalement, vous êtes content d'avoir fait ça. Et vous savez que s'il n'avait pas été là, vous n'auriez pas couru aussi vite. Donc, en un sens, vous le réconfortez, vous le félicitez, vous le remerciez. Alors, ça dure quelques secondes. Puis, d'un coup, là, excusez-moi, monsieur, on redevient poli, c'est-à-dire distant. Alors, ça, c'est un phénomène qui m'est arrivé plusieurs fois, qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire, c'est pas votre ennemi, c'est pas votre ami, c'est autre chose. C'est la fraternité d'armes, mais... En un sens, vous étiez dans des camps opposés. Dans l'autre sens, vous êtes dans le même camp. Relation toute très particulière. Alors ça, c'est très important. Parce que vous ne devenez vous-même que si l'autre vous tire la bourre. C'est-à-dire, vous ne pourriez pas faire une telle performance seul. Donc, votre concurrent est en fait votre meilleur ennemi. C'est-à-dire le gars qui vous aide le plus. Alors, c'est étrange, mais c'est comme ça. Alors, il y a aussi, toujours dans la course à pied, cette expérience extraordinaire.
Je peux juste faire un commentaire. J'ai l'impression que c'est presque renverser la lecture libérale de la concurrence, puisque là, la concurrence, au lieu d'être dans l'idée que le meilleur l'emporte et l'écrase, il y a une chose qui est plus fondamentale, c'est que dans la concurrence s'éprouve une solidarité avec celui-là même qui apparaissait comme mon ennemi.
Absolument, oui.
Oui.
Si on veut, on ne sait rien. Enfin, moi, je décris des expériences que je connais bien et qui me semblent intéressantes. Alors, il y a la deuxième chose, si on se place d'un point de vue individuel. Pourquoi est-ce qu'on fait de la compétition? Pourquoi il faut en faire, contrairement à ce qu'on dit, le sport détente, etc., le désintéressé? Non, il faut faire de la compétition, parce que la compétition est une source d'expérience tout à fait extraordinaire. D'abord, quand on fait de la compétition, le but n'est pas, il n'y a que les imbéciles qui, enfin, ou les très grands champions dans les très grandes circonstances, mais le but n'est pas d'abord de gagner. C'est pas d'abord d'être meilleur que l'autre, c'est d'être meilleur que ce qu'on était juste avant. De s'améliorer. C'est pas d'être le meilleur, c'est de s'améliorer soi-même. Donc, dans une course, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de battre votre record personnel. Alors, si ça vous fait gagner, très bien, mais il n'y a plus de satisfaction à être deuxième au niveau élémentaire où j'étais. Je ne parle pas des finales des Jeux Olympiques, évidemment, c'est différent. Là, c'est les victoires qui comptent. Mais pour un sportif moyen, compétiteur moyen, il vaut mieux être deuxième en battant son record personnel que d'être premier sans l'avoir battu. La satisfaction est beaucoup plus grande. Alors, le problème du record personnel, c'est le suivant. C'est que vous avez un jour atteint une marque. Bon. Et cette marque, vous l'avez en tête, et en principe, vous vous entraînez pour la battre. Mais, en principe, vous n'êtes pas du tout certain de pouvoir la battre. En un sens, peu à peu, avec le temps, si ça dure trop longtemps, vous êtes convaincu que c'était votre limite objective. Donc, vous vous mettez peu à peu en place un concept d'impossible. Et si en plus, il y a un chiffre rond, 2 mètres en hauteur, quand vous êtes cadet, 3 minutes au 1000, quand vous êtes... sur 1500 mètres, que vous êtes cadet, 5 minutes, puis après 4 minutes au 5 mois. La barrière des 4 minutes au 1500 mètres, c'était comme la barrière des 4 minutes au mile. Hein. Les gens étaient persuadés que c'était infranchissable, 4 minutes au mile, qui ont été battues seulement en 54, je crois. Donc, je veux dire, c'est vraiment... peu à peu, le record personnel devient une barrière objective. Et alors, l'expérience fondamentale, c'est qu'un jour, vous battez le record personnel. Et quand vous le battez, c'est souvent assez largement. Vous ne savez pas pourquoi. Alors ce jour-là, c'est un jour où justement vous n'avez pas fait d'effort. vous êtes entraîné, vous en avez bavé, etc. Puis un jour, je ne sais pas, la piste était bien damée, il faisait beau, vous pensiez à autre chose, vous êtes arrivé décontracté parce que vous n'aviez pas de grande ambition ce jour-là. Puis il y avait un gars sur la ligne de départ que vous n'aimiez pas, vous avez bien envie de vous le faire un petit peu pour lui apprendre la politesse, etc. Bon, de fil en aiguille, vous gagnez, à votre grande stupeur, et on vous dit que vous avez battu votre record personnel de 2 secondes. Là, on est quand même scié. On l'a battu et on ne sait pas pourquoi. On s'est rendu compte de rien. Et comme on dit, dans ces cas-là, ce jour-là, j'étais vraiment dans un état de grâce. C'est-à-dire, il y a des jours où vous en bavez et ça n'avance pas. Et puis, ça arrive régulièrement dans une saison, si tout va bien, 2 ou 3 fois, vous êtes dans un jour de grâce, dans un état de grâce. Et d'un seul coup, vous courez mieux, plus vite, beaucoup plus décontracté, vous ne pensez pas à la barrière de l'impossible, vous avez même pas mal. Ou alors quand vous avez mal, vous trouvez ça très agréable, parce que, évidemment, vous avez mal, mais si, par exemple, en sortant du dernier virage, vous en avez encore sous le pied, et que vous mettez à accélérer, et que vous faites toute la ligne droite en accélération. Vous le faites très mal, vous avez des toxines partout. Mais comme vous accélérez de plus en plus, vous êtes de mieux en mieux. Donc vous êtes en avant de vous-même. Ça, c'est l'état de grâce. Et en fait, on court, on fait beaucoup d'efforts pour arriver à l'état de grâce, on ne sait jamais quand il arrive, et pour d'un seul coup ne pas avoir mal et réussir. Alors ce dédoublement-là, c'est une expérience extraordinaire qui m'a fait comprendre assez vite que la frontière du possible et de l'impossible est floue. C'est-à-dire que l'impossible est un territoire dans lequel on peut entrer.
Ce qui est étonnant, c'est que cette description phénoménologique correspond très exactement à ce que dit Saint Paul lorsqu'il, vous avez dit, être en avant de soi-même, donc lorsqu'il parle de ce que, en grec, on parle de l'épectase,
épectenominos.
Voilà. Il dit, ayant été saisi, je cours en avant, voilà, pour attraper celui qui m'a saisi, oui. À propos du Christ.
Oui, oui, c'est Éphésiens 3, Philippiens 3, mais je veux dire, il y a une chose en avant. La course à pied, le saut aussi, enfin beaucoup de choses, la marche, n'oubliez jamais que c'est une posture de déséquilibre avant. Déséquilibre avant, c'est-à-dire que vous n'avancez que si vous êtes déséquilibré. D'ailleurs, vous êtes au sol avec un seul pied et vous êtes en train de vous casser la figure. Donc la course à pied, c'est une suite de sauts, c'est-à-dire de chutes, rattrapées au dernier moment. Et c'est pour ça qu'on est penché en avant, pour maintenir le déséquilibre. Et les sprinters, par exemple, leur problème, c'est de se relever en ascendant le plus lentement possible une fois qu'ils ont atteint le maximum de vitesse, parce qu'ils atteignent le maximum de vitesse parce qu'ils sont en avant. Alors après, on est bien obligé de se relever un peu, mais je veux dire, c'est le déséquilibre qui fait la vitesse. Donc, ça n'est pas la stabilité. La métaphysique classique se trompe en disant que c'est le présent. La supériorité du présent, c'est qu'il est stable. Le maintenant. Et le maintenant, on dit que c'est le nunc stans. Qu'il y a un maintenant parce qu'on s'y tient. La vérité, c'est que on est dans le présent quand on ne s'y tient pas. C'est-à-dire quand on est en avance. Le présent dure, le temps d'une course, le temps d'une valse, tant qu'on est en avance. Donc le déséquilibre est la loi du vrai temps. Et la course à pied, c'est une question de déséquilibre. Et on est praecepts, c'est-à-dire la tête en avant. Et c'est évidemment ce que retient saint Paul pour décrire dans Philippiens 3 l'eschatologie. C'est vous êtes la tête en avant. Vous êtes fondé, non pas tête baissée, tête relevée, mais enfin vous êtes la tête en avant. Et le sport est une expérience de la tête en avant. Et pour revenir au comme-si, quand vous faites un essai de saut, par exemple, vous allez faire comme si vous passiez la barre. Si vous ne faites pas comme si vous alliez la passer, vous ne la passerez pas, ça c'est sûr. C'est pas sûr que vous la passerez en faisant comme si. Mais logiquement, il faut y aller à fond. Et, donc, plus douce sera la chute.
En fait, on peut dire que le comme si se situe à la frontière
du possible et de l'impossible.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il faut à chaque compétition faire comme si l'impossible n'était pas fixe. Ça s'appelle l'engagement, comme on dit. Et donc c'est une expérience qui n'est pas physique, qui est directement spirituelle.
Est-ce que ça ne correspond pas à toute la poésie de Pindare ? En fait, on oublie que la grande poésie grecque de Pindare est une poésie sportive. Hein, les Olympiques, les Pythiques Pindare fait l'éloge d'un champion. Mmh. Mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, pour faire l'éloge d'un champion, il va convoquer les dieux ? Parce que d'une certaine façon, on peut s'entraîner, on peut faire des efforts, mais la victoire vient toujours des dieux. Cet état de grâce dont vous parliez, c'est qu'on peut essayer de parvenir à des résultats, mais il n'en demeure pas moins que la victoire est quelque chose qui est donné, pour reprendre la question de la donation. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience.
Je ne suis pas sûr que chez les Grecs, que ce soit les dieux qui donnent la victoire. Je dirais plutôt que c'est la réussite des hommes à faire des choses qui fait plaisir aux dieux. Je ne suis pas sûr que ce soit les dieux qui donnent la victoire. Ils couronnent celui qui l'a remporté. Ils remercient d'avoir fait des belles choses pour le plaisir des dieux et la gloire de la cité.
Chez Pindare, c'est quand même exprimé quasiment comme ça, avec l'idée que le champion est finalement d'abord d'une famille avec des dieux qui sont derrière et qu'il est comme, au terme de l'entonnoir, on pourrait dire, qui bénéficie de toute une chose antérieure. Il y a comme une grâce.
Je regarderai ça.
Mais sur la victoire, alors, justement. Est-ce que la victoire est toujours donner, c'est ça la question. Voilà, justement, on retrouve le thème de la donation.
D'abord, la notion de victoire, elle est très équivoque, parce que moi, je pense que ce qui est intéressant dans les victoires, c'est les victoires qui auraient pu ne pas être. Il y a les victoires qui sont programmées. Parce que le type est plus fort, est mieux entraîné, parce que tout est signé, tout le monde. Bon,
c'est pas une victoire.
Oui,
c'est un résultat.
C'est un résultat, mais enfin, c'est pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est les victoires contre tout espoir. Le 800 mètres de Boss au dernier championnat du monde, là, on ne pensait pas qu'il pourrait le faire. Et il est sorti dans la ligne opposée. Il est passé en tête à l'entrée du virage et tout le monde pensait qu'il ne tiendrait pas la ligne droite. Et là, il a accéléré et les autres sont partis un peu trop tard. En particulier le Polonais, il est parti trop tard. Il avait une très bonne pointe de vitesse, mais il est parti trop tard et il n'a pas pu remonter. Je prends la victoire de Colette Besson à Mexico en 68. Elle est entrée dernière dans... c'est le 400 mètres. Elle est entrée dernière dans la ligne droite. J'ai encore le souvenir du commentateur disant pour Colette Besson, c'est fini. Et elle a remonté tout le monde dans la ligne droite, ce qui est absolument extraordinaire. Elle a repris 10 mètres dans la ligne droite et elle a battu l'Anglaise qui s'appelait Carr, je crois, sur le fil. Et c'était la dernière personne à qui on songeait. Donc vous avez la victoire. La victoire qui a un côté, miraculeux. On peut dire que pour prendre d'autres exemples, puis vous avez la défaite qui n'aurait jamais dû arriver aussi. La défaite qui n'aurait jamais arrivé. Jazzy n'aurait jamais dû perdre le 5000 mètres de Tokyo. Jamais. Il a fallu un concours de circonstances invraisemblable. Bon, je ne vais pas m'attarder, ce serait trop triste. Mais, puisqu'on parle de Jazzy, par exemple, il y a eu la semaine extraordinaire du mois de juin 1965 où il a battu 4 records du monde en une semaine, dont le record du monde du mile, un truc absolument inouï. Mais il y a eu la dernière course de Jazzy en octobre 66. Bon, il prenait sa retraite, c'était fini. Il avait arrêté de s'entraîner durant l'été. Et tous ses concurrents copains français ont dit, bon, on va te faire une dernière course, une dernière réunion dans le stade où tu as battu, le stade de Saint-Maur, où tu as battu tes premiers records du monde. On va organiser une course. Ton premier record du monde, c'était le 2000 mètres. Tu vas battre pour ta dernière course une nouvelle fois le record du monde de 2000 mètres. Jazzy a dit, ça fait 2 mois que je ne m'entraîne pas, c'est impossible. Eh bien, tous les gars, il s'est remis à entraîner à Fissa, enfin il était pas du tout au niveau. Tous les types lui ont fait une course pile poil en le traînant, etc. Parce que, vous savez, on met un gars qui court, alors il fait un premier 400 mètres dans le bon rythme. Bon, puis après, il peut nous tenir 800 mètres, le premier. Bon, au bout de 800 mètres, il a fait ça, mais comme il n'est pas un grand champion, il est mort. Donc, là, il ralentit, il abandonne, ou il suit, mais enfin, bon, il ne peut plus aider. Alors, après, pour un 2000 mètres, il y a un gars qui va tenir un tour. Ça va le faire quasiment à 1500 mètres. Bon, il est dans le temps du record du monde, en espérant que Jazzy suit. Et puis après, le gars, il va faire pouf-pouf. Et alors, il y en a un qui est quand même plus fort, qui va pouvoir mener Jazzy... encore 400 mètres. Puis à la fin, Jazzy va être tout seul. Alors il faut qu'il ait suivi d'abord. Et en plus, qu'il soit capable de faire le dernier 400 mètres, qui est le plus difficile évidemment, tout seul, et le plus vite possible, plus vite que les 400 mètres précédents. C'est là qu'on voit le patron. Bah donc Jazzy, ils l'ont amené à 400 mètres dans les temps du record du monde. Et lui, il n'était plus un champion, il était plus... Il a fallu qu'il fasse le dernier tour à fond la caisse, alors qu'il ne pouvait pas. Il a fait le dernier tour à fond la caisse et il a battu le record du monde. Bon, là, vous voyez, le phénomène d'entraînement, c'est donc un travail commun. S'il avait été seul, il n'aurait pas pu battre le record du monde. Donc, il fallait avoir que ses copains le tirent. Oui ? Ah bon ? Donc ça, c'est, vous voyez, ça c'est à la fois la victoire et le record, et qui est c'est un sport individuel, si on veut. Mais enfin, c'est un sport individuel qui se court de toute façon à plusieurs. Hein. Et le rapport possible-impossible varie. Le rapport ami-ennemi, concurrent, tout est brouillé. Non, c'est très intéressant. Et Jazzy ne pensait pas qu'il pourrait battre... Donc sa dernière course a été de rebattre son premier record du monde. C'est pas beau ça, hein ?
Juste, on va devoir s'arrêter parce qu'il y a la messe à Écart. Gardez vos questions pour... Henri, on pourra reprendre en fait à partir de là. Et donc on garde la question pour cet après-midi. Tu es là de toute façon ? Oui. Bon voilà, on garde la question pour cet après-midi. Voilà, merci.